Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Emmanuel Biro. Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel, vous êtes ici pour nous annoncer des stages qui vont se remettre en place en mois de février et puis concernant les vacances, hein, je pense. Et il s'agira de « Nous n'irons pas skier ». Et ça permet de faire du dessin, du pastel, de la gouache, de l'aquarelle. Et il y aura deux propositions, une pour le primaire avec les dessins illustratifs et l'autre pour des collèges et lycéens, ça sera de la BD manga. Et donc cela aura lieu chez vous, au 908 chemin de Chandillon, au quartier du Perrier, à Die. Alors pour vous, cette passion qu'est le dessin, ça vous a pris très tôt ?
Oui. Absolument. Je devais être en sixième, quelque chose comme ça. Sauf que à mon époque, il n'y avait pas tellement, même quasiment pas, d'ateliers pour les enfants. Donc moi, j'ai appris à dessiner avec des adultes à partir de ma quatrième. Donc je ne sais plus quel âge on a en quatrième, on doit avoir 13-14 ans. Et bon, voilà, c'était moins ludique que ce que j'essaie d'offrir.
C'était les cours du soir dans des écoles d'art, par exemple.
Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. Ouais, dans la ville où j'habitais, il y avait une maison des jeunes et il y avait des ateliers. Mais c'était plutôt le soir, en fait. C'était pas le mercredi après-midi. C'était plutôt le sport qui était proposé aux ados à mon époque.
Donc après une journée d'école, hop.
Oui.
De nouveau.
Exactement.
Et ce qui m'entraîner à faire les devoirs encore plus tard.
J'avoue que les devoirs, c'est pas trop mon problème. Ah.
Alors, nous n'irons pas skier. C'est un peu dommage.
Bah, c'est-à-dire que voilà, j'ai cherché une formule qui. Moi, je suis toute nouvelle dans le Diwa, donc c'est mon premier hiver ici, donc j'ai aucune idée de. Durant les vacances de février, de quelle va être la météo. Et habituellement, les stages, on travaille surtout autour de contes. Et en 5 jours, on illustre un conte, ce qu'on avait fait avec le petit Pousset durant les vacances de la Toussaint. Mais là, je me suis dit, si à un moment, il y a une belle chute de neige, pas forcément sur Die, mais sur les hauteurs, et que du coup, les familles, je dis une bêtise, le jeudi... Waouh, bah c'est super, allons skier. Du coup, j'essaye de faire quelque chose qui soit plus souple et plus ouvert, qui permette justement à un moment, s'il y a une belle chute de neige, d'aller quand même faire du ski et de ne pas avoir raté quelque chose dans le stage. Voilà.
Et pour cela, vous proposez 2 sessions hein, pour chaque catégorie. La première du 9 au 13 et la seconde du 16 au 20 février pour les primaires. Également pour les collégiens et lycéens. Donc, ça permet de pouvoir trouver les bonnes dates pour venir pratiquer.
Alors, le principe, c'est qu'on s'inscrit pour la semaine. Sauf que là, tel que le stage va être conçu, si à un moment, on n'est pas là en plein milieu parce qu'on va faire du ski, c'est moins embêtant que, par exemple, à la Toussaint où on ratait une partie de l'histoire.
Alors, ces dessins illustratifs, c'est sur proposition de contes, comme vous le dites. C'est au choix de votre, c'est votre choix ou celui des enfants
non,
aussi ?
Non, c'est le mien. C'est toujours les ateliers. Bah déjà, ils sont scénarisés en ce sens où je les prévois toujours. Avec un démarrage, un premier jour et une fin le dernier jour. Alors ça a l'air un peu idiot comme ça, mais en fait, la difficulté dans les techniques que je propose aux enfants, elle augmente. Je le fais parce qu'au fur et à mesure, on se connaît mieux, ils prennent confiance. Et puis, je m'appuie aussi sur ce que je leur ai appris la veille, tout bêtement, ou l'avant-veille. Voilà, donc chaque jour, on a un dessin. Et ensuite, on va le faire suivant une technique différente. Voilà, là en plus, comme sur les réinscriptions, il y a pas mal d'enfants qui étaient là à la Toussaint qui reviennent. Donc du coup, je vais mettre un point d'honneur à continuer, donc ne pas leur proposer quelque chose qu'ils ont déjà fait au niveau de la technique. Voilà, mais le tout, voilà, j'emploie le mot technique, mais tout ça est très ludique, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'ils sont en vacances et qu'ils sont là pour découvrir. Moi, mon propos à moi, elle est de... très souvent, les enfants arrivent, ils adorent dessiner. Même dans 99% des cas, donc ils sont déjà conquis. Mais je pars du principe qu'en fait, c'est un peu comme s'ils arrivaient dans une pièce où il y avait de la lumière électrique. Ils savent très bien qu'il y a un volet et une fenêtre, mais finalement, on n'a pas encore ouvert le volet. Et donc, moi, mon propos, il est d'ouvrir le volet et de faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'il peut y avoir « waouh ». Voilà, quand on ouvre les volets, une autre lumière s'installe et on fait des découvertes. Et c'est un peu... ça a l'air un peu abstrait comme ça, comme image, mais c'est un peu ça l'idée qu'ils repartent tous les jours en s'étant rendu compte de quelque chose.
Le conte que vous proposez, c'est aussi une main tendue vers l'imaginaire de l'enfant. Donc, oui. Il y a cette faculté d'accéder facilement à cet imaginaire par ces propositions.
Alors, pas tant que ça, parce qu'en fait, les ateliers sont quand même très encadrés. Donc là, on ne sera pas sur le conte, mais il y aura toujours, chaque image aura sa petite histoire tous les jours. La seule différence avec les contes, c'est que ça ne se suivra pas. Mais en fait, leur imaginaire, il se déploie parce que dans chaque dessin, qui donc est très encadré, il y a toujours une place pour leur imaginaire à eux. Par exemple, la maison du petit Pousset, je leur avais demandé de faire sur un fil à linge, de mettre les vêtements de toute la famille. Donc là, c'est leurs vêtements. Donc il y en a qui ont mis des chaussettes, d'autres qui ont mis des t-shirts, chacun met comme il veut. On décore les fenêtres aussi. Voilà. Donc ils ont toujours une place pour leur imaginaire, mais après, sur le dessin, c'est quand même moi qui dis qui fait. Qui leur montre, et voilà, je travaille avec un tableau, je leur montre, et je leur explique pourquoi, est-ce qu'on fait, comment faire, etc.
Les supports utilisés sont la feuille de papier, mais bien au-delà aussi.
Oui, bien au-delà en fait. Alors toujours une feuille de papier, souvent brouillon au départ, pour pouvoir faire un dessin où on n'a pas peur de si on s'est trompé. C'est pas grave parce que c'est le brouillon. On peut gommer, on peut reprendre, etc. Très souvent ensuite, ils sont transférés sur le papier, le bon papier. Et donc, je choisis le papier en fonction de la technique. Donc, un papier aquarelle n'est pas le même qu'un papier le pastel, par exemple. Les papiers pastels qui sont colorés, ils ont souvent le choix de la couleur. Je leur propose 3-4 possibilités, chacun choisit. En octobre, on avait fait de la gravure. Là, on ne va pas faire de gravure parce que ça suppose de passer par de l'eau. Et l'eau est à l'extérieur de l'atelier, donc je ne vous fais pas un dessin.
Oui, c'est un peu froid là.
Il fait trop froid. Mais j'aime bien travailler aussi sur des pages de partition ou des pages de livres, de vieux livres que je trouve dans la rue ou des cartes. J'aime bien travailler sur des cartes aussi. Voilà.
Donc, le support est sur un libre choix, en quelque sorte, avec un format déterminé
Alors, ils ont toujours le même format, puisqu'à la fin du stage, on fait un petit portfolio, de façon à ce qu'ils repartent avec un bel objet, quelque chose de valorisant, en fait. C'est ça aussi l'idée, hein, de toujours les valoriser. Et donc là, pour le coup, tout le monde a le même format. Ça, c'est valable pour les stages. Dans les ateliers à l'année, c'est différent, mais là, c'est toujours le même format.
Donc, avec un dessin par jour, oui. On repart avec un folio de 5-6 pages.
Exactement, de 5 pages, exactement.
Et puis, donc, ça, c'est l'aspect primaire hein, pour les enfants du CP, du cours préparatoire jusqu'au cours moyen.
Oui, ils sont séparés par âge, en fait. Il y a deux tranches d'âge parce que les CE2 sont un âge un peu pivot. On peut, ils sont heureux dans les deux, et donc je les CE2 ont deux possibilités, parce que je me dis aussi qu'il peut y avoir des fratries où il y a un CP-CE2 ou un CE2-CM2, et c'est plus facile pour les familles d'amener les enfants une seule fois.
Et d'ailleurs, je vois là, les sessions sont d'une heure et quart, une heure et demie.
Alors, une heure et quart pour les tout petits, oui. Donc CP-CE2, et une heure et demie pour les CE2-CM2. Bah oui, il faut ça pour faire le dessin. Bah, déjà, se dire bonjour. Ça prend toujours 5 minutes, savoir comment ça s'est passé depuis la veille, etc. Je trouve que c'est très important. Faire le dessin, le transférer, et ensuite découvrir une technique. Même, je vous avouerai que parfois, les CM2, ils finissaient à la Toussaint, les parents attendaient 5-10 minutes dehors.
Oui,
c'est les vacances.
Oui.
Voilà, je ne les bouscule pas.
Et puis, des fois, parfois, il y a nécessité de plus de temps pour faire un dessin.
Oui, ça mais déborde, ça dépend des parfois. Enfants aussi. Ouais. Il y a des enfants qui sont très rapides, d'autres qui ont besoin de plus de temps. Donc voilà, une fois de plus, ils sont en vacances. Donc, c'est pas marrant de dire « dépêche-toi, dépêche-toi ». Non, c'est pas du tout l'idée. Et mon Dieu, si les parents, surtout à midi et demi, je leur dis à chaque fois, hein, je les préviens, si, mon Dieu, on finit 5 minutes plus tard, c'est pas très grave.
Alors, il y a le support, le sujet, c'est un conte. Quels sont les modèles? Parfois, on peut avoir besoin de modèles pour...
Alors, c'est des dessins que j'ai faits avant, en fait. Toujours. Je travaille toujours avec des dessins que je fais avant. Pour deux raisons, ça me permet de voir, moi, comment est-ce que je vais leur enseigner l'image. Ça me permet de me dire, ah, ça, ils sont trop jeunes, ou, oh non, c'est trop facile. Donc, ça me permet d'ajuster. Donc en fait, on travaille à partir de propositions de dessins que je fais avant, dans bien des cas. Après, par exemple, pas cette fois-ci, pas en février, mais à la Toussaint, c'est ce qu'on avait fait. Il est évident que le petit pousset, beaucoup d'illustrateurs l'ont exploré, et donc je leur ai montré beaucoup. De par exemple, quand on a fait de la gravure, je leur ai montré évidemment Gustave Doré. À un moment, on a fait une proposition avec des embrassades. Je leur ai montré le petit pousset de Rebecca d'Outremer, qui est aussi un ouvrage que j'aime beaucoup. Voilà, donc je leur montre évidemment aussi beaucoup les illustrateurs. Là, moins, on ira peut-être un peu voir Bilibine, qui a en russe, qui est un illustrateur russe du début du 19e. Que j'aime beaucoup et qui donc a pas mal de propositions sous la neige. Donc voilà, je ne m'empêcherai pas de leur montrer, mais ce sera moins... C'est moins cadré au niveau de l'histoire.
Ça, c'est la partie pour les plus jeunes. Et il y a ensuite les BD manga. Ça, c'est pour donc, les collégiens et lycéens, avec des propositions de dates qui sont identiques, mais avec une ouverture plutôt l'après-midi, hein, donc du lundi au vendredi, 3 heures successives par journée. La BD manga nécessite un travail plus précis.
Oui, c'est beaucoup. Alors, c'est pareil, hein, c'est scénarisé entre guillemets. En fait, le premier jour, le lundi, on apprend les techniques de la BD. Donc, on bosse sur les émotions, évidemment, sur le passage d'une émotion à une autre en dessin. Je leur montre aussi, je leur donne des pistes pour comment inventer des personnages à partir de formes géométriques, hein, très souvent. Voilà, et donc je leur demande de me faire ce qu'on appelle des chara-design, c'est-à-dire des petites planches où ils inventent des personnages. On parle aussi de comment enchaîner les cases. Donc, je leur fais faire des exercices sur comment enchaîner les cases. Si on a le temps, on n'a pas forcément le temps, mais là, sur ce que je vois des réinscriptions, il y en a pas mal qui étaient déjà là la session d'avant. Donc, du coup, là, on aura le temps. J'aborde le champ contre champ, qui est un truc de Cinoche, mais qu'on peut aussi utiliser en BD et qui, là... un petit peu plus ardu. Voilà, donc ça, le premier jour, on est très technique et c'est très... je leur montre et c'est vraiment des exercices. Et à partir du mardi jusqu'au vendredi, c'est à eux les manettes. Et donc, c'est eux qui doivent faire leur histoire, mais suivant un modus operandi qui est quand même très défini. Donc, je leur demande d'abord de m'inventer une histoire, ou s'ils préfèrent, parce qu'il y en a qui, pour qui inventer l'histoire, c'est un petit peu c'est bloquant, s'ils préfèrent commencer par me trouver les personnages. Des personnages qu'ils auront envie de dessiner et de, qui va les accompagner toute la semaine. Ensuite, on en parle de cette histoire, etc. Parce qu'il faut faire très court, il faut réussir à faire une histoire qui va tenir en une page, deux grands maximum. Moi, sur le premier jour, je vois aussi la rapidité de chacun. Donc, il y a certains enfants où je sais que deux, ce sera trop compliqué. Donc, je suis cash avec eux. Je leur dis, deux, je pense que tu seras plus heureux ou plus heureuse si tu fais en une. Et en général, ils me font confiance. Donc, je suis super franche avec eux. Donc, une fois qu'ils ont trouvé leur histoire, on fait un storyboard. Donc, ils font des petits dessins avec des petits bonhommes bâtons. Ils font sur une feuille de brouillon le découpage. Donc là, c'est pareil. Alors là, j'y mets mon grain de sel, évidemment, parce que très souvent, entre deux cases, il manque tout un tas de trucs qui sont dans leur tête, mais pas sur le papier. Et puis, une fois qu'ils ont fait leur storyboard, ils font un crayonné sur un format A3. Moi, je les fais travailler en A3 parce qu'il y a plus de place. Et donc ça les occupe en général le mercredi et puis un bon bout du jeudi. Et ensuite, on travaille avec des tables lumineuses. Et donc là, c'est pareil, ils ont le choix entre tout un tas de techniques. Encre de Chine, feutre à alcool, crayon de couleur, feutre normal, mais je leur déconseille parce qu'ils ont ça à la maison, donc c'est pas intéressant, autant faire un truc qu'ils n'ont pas à la maison. Aquarelle, s'ils ont envie. Encre de type colorine, tous ces trucs-là. Et donc, en fonction de leur choix, je leur donne pareil le bon papier. Et puis, donc, c'est parti pour la version définitive. Voilà, on vérifie les fautes d'orthographe, parce qu'il n'est pas question qu'il y ait des fautes d'orthographe. Et puis, tout ça les occupe jusqu'au vendredi, où il y a certains enfants qui n'ont pas fini à 17h le vendredi, mais plutôt à 17h30. Et c'est pareil, ils repartent avec une vraie BD. Et il y en a pas mal qui ont découvert comment c'était une BD. Et puis après, ce qui se passe à l'intérieur de l'atelier, ça dépend vraiment des histoires et des enfants qui sont là, enfin des ados, c'est plus des enfants, parce que à partir du mardi, en fait, c'est eux qui font cours. Et moi, je suis là pour leur montrer comment faire, pour leur donner des indications en plus. Donc, je suis totalement à leur service. Donc, d'un atelier, l'autre, d'un groupe, l'autre, on n'a pas du tout ni la même ambiance, ni les mêmes discussions. Et ils n'apprennent pas la même chose, parce que à chaque fois que qu'un enfant me demande quelque chose, j'en profite pour faire un petit point. Et donc, du coup, la parole... L'apprentissage va vers la personne qui m'a posé la question, mais j'en profite pour que tout le monde ait cette info. Donc finalement, d'un atelier à l'autre, on n'apprend pas forcément la même chose.
Le manga, c'est une discipline qui s'est bien installée en France, en Occident.
Ah oui, pour moi, et c'est la porte d'entrée.
La plupart des jeunes sont fascinés par le manga.
Oui, mais c'est pas un problème. Moi, je n'ai rien contre le manga. C'est une porte d'entrée. Moi-même, dans mon hit parade des auteurs que j'aime vraiment beaucoup, il y a quelques mangakas. Après, très souvent, c'est pas non plus complètement ma culture. Donc très souvent, c'est eux qui m'amènent leurs mangas et je les découvre. Donc ça, j'aime bien aussi quand ça va, quand c'est un échange et que. Qui m'apporte aussi des choses. La seule difficulté que je trouve, moi, par rapport au manga, c'est que dans 95% des cas, les mangas sont édités dans le sens de lecture japonais. Mais ça, c'est un problème économique des éditeurs. Ça n'a rien à voir avec les enfants.
De gauche à droite.
Exactement, qui n'est pas notre sens de lecture à nous. Ça, c'est une de mes grandes batailles. Après, ça reste... Quand je dis bataille, ça reste très ludique. Mais j'essaye de faire en sorte de leur faire prendre conscience de ces histoires de sens de lecture, de leur faire comprendre aussi que le sens de lecture économise un certain nombre de cases à faire, puisque notre cerveau est formaté comme ça. Et donc, du coup, je leur demande d'avoir un sens de lecture européen dans les productions qu'ils font. Après, s'il y a une case où le sens de lecture est inversé et que je ne l'ai pas vu et qu'elle est sur le crayonné, etc., eh bien, tant pis, le sens de lecture est inversé, c'est-à-dire que je ne leur refais pas refaire. Mais à l'étape du storyboard, j'essaye de leur demander d'inverser et surtout de leur faire prendre conscience de ces histoires de sens de lecture.
Il y a aussi, sur le manga, cet aspect de dynamisme, que ça soit au trait, et puis ces simulations de mouvement par un tracé. Donc, tout ça, c'est une science
non, parce
à opérer
que le
ou
dynamisme...
alors c'est instinctif
Non, parce que le dynamisme en franco-belge, on l'a aussi, il est pas tout à fait fait
on
de
se rappelle
manière, mais...
de Tintin avec bah cette ouais, petite Tintin... spirale derrière lui quand
Exactement,
il court.
Exactement, mais il est hyper dynamique, ouais. Tintin. Il a bien les défauts, mais on peut pas dire qu'il soit pas mal dessiné ou qu'il soit pas dynamique.
Non, mais avec un trait plus posé, peut-être, alors que...
Pas forcément, ça dépend ouais. des... Oui, ça dépend vraiment des... La grande différence, c'est les yeux. Hein.
Oui.
Mais non, après, sur le dynamisme, honnêtement, à partir du moment où les enfants sont en cinquième, alors, des fois, pas trop la cinquième, mais surtout les garçons, la cinquième, les filles, ça peut aller un peu plus haut. Mais tout le monde tue tout le monde. Hein. On trucide, enfin pas moi, hein, mais les enfants, c'est quand même souvent des histoires où tout le monde trucide tout le monde. Hein. Et moi, ça ne me dérange pas. Hein, on peut aborder tout, du moment que c'est fait avec conscience et tous les sujets sont les bienvenus.
D'ailleurs, le thème de chaque bande dessinée, hein, de chacun, a une thématique, une histoire
également.
Ah, c'est
également. Eux qui décident. Ah oui, c'est eux qui décident. Donc j'ai de tout. J'ai vraiment de tout. Y compris des sujets, alors pas sur les stages, mais dans ma carrière, parce que j'arrive dans le Diwa, mais j'étais prof là où j'habitais avant. Et il m'est arrivé d'accompagner notamment des lycéens qui faisaient des sujets sur l'inceste, etc. Et pas de problème, allons-y. C'est important qu'ils puissent s'exprimer sur les sujets qui sont les leurs. Après, il y a des sujets qui traversent les ateliers. En ce moment, beaucoup la condition animale et beaucoup les animaux se révoltent et se retournent et font subir aux humains ce que les humains leur font subir. Donc, il y a des grandes thématiques, mais qui sont les leurs en fait, pas les miennes.
Est-ce que c'est aussi un écho de leur réalité qui s'applique sur ces feuilles pour ces adolescents ?
Ben, je pense que oui, quelque part, pas complètement. Mais il y a forcément les choses qui les traversent. Après, la parole contamine forcément l'atelier, c'est-à-dire que il y a des idées qui sont posées et ceux qui sont en manque d'idées, très souvent, raccrochent des wagons par rapport à une séduction qu'ils vont avoir à des premières idées et la traitent à leur manière. Et ça, c'est pareil, j'empêche pas aussi, parce que l'idée n'est pas de rester... bloqué devant une feuille blanche, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas valorisant et c'est pas plaisant. Donc, une fois de plus, je pense que, mais c'est pas forcément des choses qui, oui, c'est des choses de ce qu'ils discutent entre eux.
D'ailleurs, par rapport aux primaires où vous proposez un conte, le conte s'opère. Que vous proposez, est-ce qu'il est différent à chacun, par choix, ou alors vous l'imposez à tous ?
Alors non, par exemple, quand on fait le petit pousset, tout le monde fait le petit pousset.
Oui.
C'est moi qui choisis les contes, et c'est beaucoup parce qu'il y a des illustrateurs que j'aime, et qui ont travaillé ces contes, et du coup, ça me permet de les revisiter, de les montrer, de les faire découvrir. Donc c'est vraiment c'est même pas parce que je trouverais que la morale du conte me plaît ou je sais pas quoi, c'est juste... Alors pour le coup, c'est très personnel. Et c'est très des histoires de goût, là, pour le coup.
Alors, chaque atelier, c'est avec 6 personnes, hein, maximum. Donc, vous en avez, en gros, 18.
C'est ça. Alors, en BD l'année dernière, la semaine dernière, non pas, là, je recommence, en BD au mois de la Toussaint, la deuxième semaine, c'était complet, donc ça c'était très chouette. J'aime bien à partir de 4, 3, 4, voilà. Le 6, pour une raison toute bête, c'est qu'on ne peut pas en mettre plus dans l'atelier. Et puis à 6, je ne fais pas de discipline, parce qu'en fait, moi ça m'intéresse pas la discipline. Si c'est un chiffre qui permet, ou un petit peu moins, c'est un chiffre qui permet aux enfants de ne pas être trop timides. C'est pas des cours particuliers. Et en même temps, ils comprennent très vite qu'on est là pour s'amuser, mais pas pour. C'est pas des cours de récré non plus. Voilà. Donc ce chiffre me permet, mais vite, les sujets de discipline. Même si à un moment, il y a un enfant qui. Ça m'est arrivé très rarement, mais ça arrive parfois qu'un enfant tente quelque chose et où bah, je lui fais comprendre que non, mais ça évite ça.
Il y a aussi, donc, comme vous le disiez, cette session de Toussaint, et avec certains élèves ou certains enfants ou adolescents, vous allez les retrouver pour cette session de février. Pour vous, c'est un plaisir de voir cette passion qui commence à envahir l'enfant ou l'adolescent.
C'est plus qu'un plaisir. Pour moi, c'est un privilège. Voilà. Donc, comme je le disais, j'arrive dans le Diwa, mais là où j'habitais avant, j'ai eu mon propre atelier pendant 13 ans, je crois. Et j'ai eu le privilège d'accompagner des enfants qui sont arrivés chez moi. Ils devaient être en CM2, un truc comme ça. Et que j'ai accompagné jusqu'à leur entrée dans les grandes écoles. Et que j'ai aidé à faire des dossiers, donc, que j'ai aidé, etc. Et avec lequel je suis toujours en contact. Et lorsque j'ai déménagé, ils sont venus. On a fait une fête pour me dire au revoir. Et bon, c'est marrant d'offrir une bière à des anciens enfants que j'ai eus en 6e, 5e. Et comme c'est pas... Le problème à l'école, c'est qu'on change de classe et donc on change d'instituteur ou de professeur, voire même on change d'établissement. Mais pas nous. Nous, pour les enfants dont c'est quelque chose qui les habite et qui continue à les habiter. C'est un privilège et j'espère que ce privilège se perdurera dans le Diwa, parce que vraiment c'est un des trucs les plus chouettes de ce métier.
Vous-même êtes graveuse.
C'est ça.
Et vous aviez présenté une petite exposition cette fin d'année rue Camille Buffardel. Mm-hmm. On a pu y voir des tirages. Ce sont des techniques allophortes.
Exact.
Et est-ce que ça, c'est une possibilité pour vous aussi de proposer des ateliers pour adultes sur ce domaine?
Alors, durant cette petite exposition, j'avais un petit carnet et où les personnes qui avaient envie pouvaient me laisser leurs coordonnées. Et donc, l'idée, effectivement, est de proposer un stage, mais plutôt au printemps, pour faire découvrir la gravure en taille douce, qui n'est pas la même que la gravure en taille d'épargne, où nous, on travaille sur cuivre ou sur zinc, ou un autre acier, on peut aussi travailler sur du plastique, du moment que le support est plane. Et on creuse, en fait. Et ce qui est creusé retient l'encre. Donc oui, effectivement, l'idée est de proposer, dans un premier temps, des stages. Mais pour l'instant, l'atelier ne le permet pas. Il faut que j'ai des travaux à faire d'abord dedans, notamment avec cette histoire d'eau, parce que alors, pour la gravure, l'eau et la gravure sont des sujets. On a besoin d'eau pour faire de la gravure. Et il ne faut pas qu'il fasse trop froid non plus, parce que sinon ça...
L'encre devient plutôt raide.
Mais oui, mais les acides aussi, les vernis se figent, enfin c'est... Donc voilà, d'où cette idée de plutôt printemps. Et puis l'année prochaine, ça va vraiment... Là, c'est pareil, je découvre, hein, donc mais ça suppose d'aménager l'atelier différemment, en fait.
Donc vous-même êtes créatrice, mm-hmm. dessinatrice, vous gravez. Mm-hmm. C'est votre activité ou c'est une passion?
Ah non, c'est mon activité. Donc là, moi, je travaille aussi beaucoup au burin. Donc ce que je fais pendant l'hiver, c'est que je fais beaucoup de burin. Je fais aussi beaucoup de dessins préparatoires pour les plaques, en attendant de pouvoir les faire en eau forte ou en aquatinte. Et puis, je suis aussi partie d'un collectif en région parisienne Et donc, une fois par trimestre, je vais travailler avec ce collectif.
Alors, à l'heure actuelle, vous m'aviez expliqué que vous aviez une presse de taille modeste pour le moment. Et vous êtes parfois aussi en recherche de presse un peu plus grande pour mieux exprimer.
Oui, ça oui, les presses, la mienne, elle me permet de faire simplement du A4 maximum au niveau du format, donc c'est vraiment tout petit. C'est pour ça que je repars aussi en région parisienne pour faire les grands tirages. Mais les presses, c'est toujours un sujet. J'adorerais partager un atelier avec des graveurs dans le Diois.
C'est bien probable qu'on puisse en trouver. Hein. Et puis, il y a de temps en temps une exposition, ou alors peut-être pas sur le Diois, à part celle que vous aviez proposée cet hiver. Est-ce que à Paris, il y a des lieux où vous avez une certaine renommée, on pourrait dire, au sein de groupes ou personnels?
Alors non, en fait, il y a beaucoup de salons et donc en fait, il faut poser sa candidature. Mais c'est des salons qui n'ont pas lieu forcément à Paris, qui ont lieu dans toute la France et même dans le monde entier. Donc le principe, c'est de poser sa candidature et puis d'espérer d'être sélectionné. Et puis après, se rendre sur place et retrouver les graveurs qu'on croise simplement au niveau des salons. Ça, c'est très chouette. Et après, pour ma part, les salons, je les propose pas tous parce que je trouve qu'il y en a qui ont des prix d'entrée qui sont trop... trop prohibitif, donc je m'abstiens de ça, parce que notamment tous les trucs qui ont lieu au Grand Palais, là, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Donc,
Oui, mais ils sont dans le rouge, hein, financièrement, c'est pour ça qu'ils essaient de rattraper un peu partout. La gravure aujourd'hui, quelle en est sa utilisation? Est-ce qu'il y a encore des débouchés d'activité?
Alors, on ne fait plus de faux billets, c'est fini.
Oui, ça, d'accord.
Et les timbres non plus. Puisqu'avant, blague mise à part, les timbres et les billets étaient faits par des graveurs... le nec plus ultra des graveurs. Donc ça, c'est un petit peu fini. Après, il y a un vrai renouveau de la gravure. Moi, à Chaville, donc le collectif auquel j'appartiens est à Chaville, on encadre tous les ans les deuxièmes années de Estienne, l'école Estienne, à Paris, qui est l'école des métiers du livre. Et ils ont une section gravure... très solide, hein, les gamins, ils arrivent chez nous, ils ont déjà un gros niveau. Ils n'arrivent pas que chez nous, hein, on fait partie des ateliers où ils font leur stage, mais il n'y a pas que le nôtre. Donc il y a un vrai renouveau de la gravure avec énormément de jeunes gens qui arrivent, qui ont beaucoup de talent. Et c'est pareil, il y en a qui sont très influencés par les mangas, par Miyazaki, évidemment. Donc on a ça. On a aussi des propositions très classiques, assez curieusement. Et puis il y en a qui tentent plein de choses, mais la gravure est très vivante. Et puis on peut faire plein de trucs en gravure, en fait. Donc c'est très très riche.
Vous êtes-vous rendu à Prague ?
Alors oui, mais pas pour faire une exposition.
Non, mais je me souviens, à Prague, il y avait énormément de ventes de petites gravures. Ça ne vous parle pas, ça ?
Non.
J'avais souvent des petites guérites avec des petites planches en vente dans la rue, comme ça. J'avais ressenti comme une vraie tradition de la gravure à Prague même.
J'ai pas fait attention. Non, pour moi, les endroits où il y a beaucoup de graveurs, il y a évidemment les Hollandais, les Polonais, beaucoup, les Espagnols et les Portugais aussi ont beaucoup de propositions très très intéressantes. Je ne connais pas bien les Italiens, mais je pense qu'il doit y en avoir aussi pas mal. Et puis les Canadiens. Il y a une grande activité gravure au Canada, donc c'est un peu à l'autre bout de la terre. Mais
Il y a aussi cet attrait, hein, de ce travail de la gravure avec la matière du papier, et puis ensuite les morsures, l'ancrage, ce relief aussi. Il y a un côté fascinant aussi parfois avec ces contrastes entre le noir et le blanc qui parfois nous emmènent dans cette vision.
Ah bah oui,
vous en jouez d'ailleurs de cet effet d'optique pour...
Oui, bah, bien sûr, mais surtout en fait en gravure, ce que moi j'aime, c'est qu'il y a deux aventures. Il y a l'aventure de la plaque, qu'on appelle la matrice, et où donc, alors pas pour le burin, parce que pour le burin, au bout d'un certain temps, on n'a finalement pas tellement besoin des tirages d'état pour avoir les idées de niveau de gris, etc. Mais pour tout ce qui est aquatinte, comme le principe de l'aquatinte, c'est de travailler avec de l'acide, eh bien, on a toujours des surprises, en fait, d'où les tirages d'état, qui sont les tirages intermédiaires. Parce que on a beau avoir des nuanciers entre le nuancier et puis le résultat à la sortie de l'acide, il y a souvent des nuances en fonction de la température, de l'usure du bain d'acide, etc. Donc il y a toute une partie un peu de surprise. Et donc il s'agit de jongler, de rebondir ou pas d'ailleurs sur ces surprises. Donc il y a un côté un peu aléatoire qui guide aussi et qui fait avancer le travail. Donc, et puis une fois qu'on estime en tirage d'état que la matrice est bonne, eh bien il y a l'ancrage. Et là l'ancrage c'est une deuxième aventure parce qu'on peut mixer les couleurs comme on veut, on peut faire avec la même plaque, rien n'empêche d'avoir une proposition rouge, une proposition bleue, une proposition verte, on fait ce qu'on veut en fait. Donc et voilà. Alors après, par exemple, les diplômes de graveurs, on demande de faire toujours le même tirage. Mais dans la vie, on fait ce qu'on veut. Donc en fonction de comment est-ce qu'on essuie ou pas, on n'aura pas le même résultat.
Je parlais de cette matière, hein, donc de ces gravures qu'on ne retrouve pas dans les propositions faites par l'IA, qui prend aussi beaucoup de place hein, dans ce type de graphisme. Hein, on peut s'en rendre compte, il y a des IA qui permettent de reconstituer un travail de graveur, mais sans la matière proprement dite, hein, puisque c'est plutôt du virtuel, ou alors c'est simplement imprimé comme ça peut.
Eh bien, en fait, oui et non, parce qu'il y a sur les Facebook et les réseaux des graveurs, il y a des personnes qui font une gravure et qui s'amusent après avec l'IA à les animer. Pour le moment, le résultat n'est pas transcendantal, mais le simple fait de réussir à animer une gravure, ça veut bien dire que quand même on réussit à reproduire en changeant le mouvement, y compris la texture. Donc j'ai bien peur, ne nous réjouissons pas trop vite. Je pense qu'on a peut-être 3-4 ans où on va rester, notamment effectivement la vibrance obtenue avec les aquatintes. Pour l'instant, l'IA la propose mal, hein, mais je ne suis pas sûre que cette longueur d'avance soit une vraie longueur d'avance. Je le crains.
Est-ce que l'IA, vous y voyez un avenir dans la création artistique, tout simplement ?
Bah, ça peut être un outil, en fait. Je ne me suis pas tellement posé la question parce que je ne me sens pas spécialement concernée. Parce que j'ai pas 20 ans, donc voilà. Je pense que c'est comme Photoshop, etc. Il y a, c'est des outils. Pourquoi ne pas les utiliser pour avancer plus loin son travail ? Moi, je pense que la règle number one, avant tout, mais c'est pareil pour la BD, c'est pareil pour les écrivains, c'est pareil pour tout. Faut d'abord avoir un truc à dire. Si on n'a rien à dire, l'IA va pas le trouver pour nous. Donc voilà, après, je sais pas, je pense que c'est un outil et que peut-être à un moment ça peut aider. Pourquoi pas. Après, la gravure, quand même, il y a une cuvette. Donc la cuvette, c'est parce que la matrice, elle fait 1 mm d'épaisseur. Et donc, quand on passe sous presse avec le papier, il y a un relief. Donc ça, bon, bah, l'imprimante, elle ne relief pas. Pour l'instant. Donc, en fait, le seul avantage qu'on a, c'est cette cuvette.
Vous avez une page Facebook hein, aussi pour découvrir un peu les travaux d'atelier avec les enfants. On peut indiquer le nom de cette page ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est Illustre Atelier, I-2-L-U-S-T-R-A-T-E-L-I-E-R, -Edpop.
Et là, il y a le moyen de vous joindre et pouvoir s'inscrire également ?
Oui, absolument. Sinon, je peux donner mon numéro de téléphone ? Ça se fait ou pas ?
Vous pouvez l'indiquer aussi, si vous voulez.
Donc, on peut me joindre au 06 16 48 77 16 ou alors par mail à imanumage@free.fr, donc imanumage, I-M-A-N-U-M-A-G-E, @free.fr.
Lors de ces ateliers avec les enfants ou les adolescents, il y a le bruit de l'atelier, les outils, les instruments, le papier aussi. Est-ce qu'il y a un environnement musical derrière ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Sauf si, avant, j'avais fait un stage Yellow Submarine, donc évidemment, on avait les Beatles à fond à la caisse. Mais non, non, bah non, parce que je demande beaucoup aux enfants. Je suis assez exigeante, en fait, même si tout à l'heure j'ai dit qu'ils sont en vacances, tout ça, oui, bien sûr. Mais les images que je leur propose ne sont pas forcément faciles à faire. Et donc, du coup, je trouve que c'est bien s'ils se concentrent et qu'ils sont tout à leur sujet. Après, on a le droit de parler, bien sûr. On a le droit de rire, évidemment. Mais non, j'avoue qu'il n'y a pas de musique.
Tant pis, je ne mettrai pas de musique pour la fin de l'émission.
Vous pouvez être Yellow Submarine.
Je mettrai Yellow Submarine, alors.
Ah, non, je ne sais pas. C'est comme
on
vous
peut,
voulez.
Hein, allez,
hein. J'aime bien ce morceau, il est marrant.
Eh bien, Emmanuel Birou, je vous remercie beaucoup d'être venu sur RDUA pour nous parler de votre activité d'artiste graveuse et puis de ces ateliers donc proposés pour les enfants et les adolescents pendant les vacances de février. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine.
I'm gonna have to fly her home.